Parce que peut-être pas d'être suisse et de finir à midi ce matin. Benjamin avait terminé ses études, ses hautes études. Et son papa lui a dit, tu sais mon fils, d'habitude, quand quelqu'un fait des hautes études à ton niveau, le cadeau de fin d'études, mon honneur serait de t'offrir une voiture. Et le fils, tout emballé, dit, papa, une voiture ! Et pendant quelque temps, ils ont réfléchi à quelle voiture ils pourraient avoir. Ils sont même allés voir le garage, les garages, et ensemble, on regardait la voiture que le garçon voulait. Et le garçon nous posait la question, papa, tu peux vraiment m'offrir cette voiture ? Oui. Le jour, il a dit, écoute, je te donnerai ton cadeau le jour où tu auras ton diplôme. Le jour du diplôme, le fils, tout content, après avoir reçu son diplôme, descend voir son papa. Et il dit, papa, papa, alors, ma voiture. Et en guise de voiture, le papa lui dit, mon fils, voilà ce que je t'offre. Médite la parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras. Et il donne sa Bible à son fils. Et là, le fils dit, quoi ? Une Bible à la place d'une voiture ? Mais papa, tu n'y es pas ! Et le fils s'en va dans une colère. Se dire, mais c'est pas possible de m'avoir fait espérer d'avoir... T'es un menteur, papa ! Et le fils ne vit plus son père pendant plusieurs années. Choqué, heurté, de dire c'est pas possible que tu sois un menteur, tu fais espérer des choses, c'était des promesses vides, tu aurais mieux fait de me dire que tu pouvais pas. Et puis, le papa meurt. Et le fils va donc à la cérémonie pour son papa, et au pied du cercueil se tenait la Bible que le père avait offert à son fils, qui était là, toujours là, qui n'avait pas été ouverte. Alors le fils va finalement chercher sa Bible. Il regarde comme ça, il dit, peut-être j'aurais dû la lire. Et il commence à avoir un petit peu de remords. Alors il ouvre la Bible, et quelle surprise de trouver une enveloppe dans la Bible avec le chèque pour la voiture. Dieu nous a laissé sa parole avec un chèque dedans, pas pour acheter une voiture, mais pour avoir la vie éternelle. Et c'est lui qui a payé. C'est son chèque. On nous fait de fausses promesses. Des promesses trop belles pour être vraies. Il n'en est pas même de Dieu. Ces promesses se réalisent. Mais plutôt que des promesses vides, ce matin j'aimerais rapidement, parce que l'heure est bien avancée, voir avec vous trois vides remplis de promesses. Trois vides remplis de promesses. Une croix vide, un tombeau vide, un linceul. Le linceul, c'est l'habit du mort, vide. Parce que la croix, elle, ne pouvait pas retenir Jésus. Pas plus que la tombe, et pas plus que l'habit qu'on lui avait déjà mis. J'aimerais que Patrick nous lise dans Marc 15, 37 à 41. Il y avait donc des témoins, des gens qui ont constaté, qui ont vu, qui ont servi Jésus vivant et qui là sont témoins de la mort. Ils sont témoins. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible ne nous invente pas des histoires. Et Jésus, et Dieu, pardon, dès le début de la création, a dit qu'il donnerait quelqu'un par la postérité de la femme qui écaserait, qui vaincrait l'adversaire. Et là, on a des dames qui ont déjà vu, qui ont constaté. Et on verra tout à l'heure qu'il n'y a pas que elles qui ont constaté. Mais Gisèle va nous lire la suite, les versets 42 à 47. Donc on a les témoins, et puis on a un homme, Joseph d'Arimathée. C'est un noble, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui a un poste important. Et vous avez vu dans le texte, il est marqué quelque chose, il a osé aller demander le corps. Jésus est celui que tout le monde a haï. Jésus est celui que finalement, aucun de ceux qui, vous rappelez, tous ont fui. Qui va aller oser demander le corps de Jésus? C'était pas de coutume d'enterrer les gens dans des grands tombeaux. On les mettait dans des carrés de terre, rapidement. Et là, les prophètes avaient déjà dit, on mettra ton corps dans le tombeau des riches. Et là, un noble va voir ceux qui ont crucifié Jésus. Ils ont dit, moi j'aimerais avoir le corps. Et la question qui tout de suite vient, c'est pourquoi il est déjà mort? Jean au chapitre 19 et au verset 33 nous dit qu'un soldat, pour vérifier qu'il était bien mort, était parti pour ou le faire mourir, voulait aller lui casser les jambes. Parce que c'est comme ça que les morts finissaient, hein. Ils étaient sur la pointe des pieds, sur la croix, pour avoir un peu d'air, parce que ça appuyait sur leur sternum. Et finalement, quand on leur cassait les jambes, ils finissaient par expirer. Mais d'une manière surprenante, Jésus était déjà mort. Et Jean 19, 33 nous dit qu'un soldat lui a percé le côté et que de là est sorti de l'eau et du sang. Preuve qu'il était déjà mort. Alors on a mis, bien sûr, tout un tas de commérages. On a mis tout un tas de choses à raconter pour faire croire que Jésus n'était pas mort, qu'on avait volé son corps. Tout un tas de choses. La presse s'est remplacée. Mais pourtant, les soldats savaient que Jésus était mort. Les Romains savaient que Jésus était mort. Les Juifs savaient aussi que Jésus était mort. La croix est l'endroit où Jésus est mort, où il a payé le prix de nos péchés. Mais il n'est plus là. La croix est vide. Vidée du corps de Jésus, mais rempli de la promesse de Dieu, rempli d'espérance. La promesse de la croix vide, la promesse de la croix vide, mes amis, c'est que vous et moi, nous pouvons être assurés que le prix a déjà été payé. Que la condamnation à mort, à vie éternelle, était payée une fois pour toutes au péché. Péché est un mot impopulaire, n'est-ce pas? On appelle ça des erreurs. c'est pas ma faute. Même monsieur Adam, hein. C'est la femme que toi, tu m'as donnée. Mais la Bible, dans Romains 3, 23, nous dit ceci. En effet, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y en a pas un seul, hormis Jésus, qui n'a pas péché. Tous. Vous et moi. On va dire nous. Et que même, plus que ça, Romains 6, 23, nous parle non seulement du fait que nous avons péché, mais que en plus, il y a un salaire qui va avec. Il y a un salaire qui va avec. La Bible dit, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, sont donc morts. Nous sommes morts sans Christ. Wow. C'est ça la croix. La croix vide proclame l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas que parler d'amour. Vous savez, on fait des promesses et on parle beaucoup de choses. Mais Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains chapitre 5, verset 8. Personne d'autre n'a été capable de faire ça. Juste Jésus. Ni Moïse, ni Abraham, ni David, ni même Mahomet, ni même Bouddha. Pourquoi? Parce que Acte 4, 12, dans la bouche de Pierre, nous dit « Le salut ne se trouve en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui soit donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. » La croix, c'est ça qu'elle proclame. Et non seulement ça, si on a un doute, s'il fallait rajouter quelque chose à ce que Jésus a fait, et c'est ce que les religions font, et c'est ce que nous pouvons arriver à faire malgré nous, rajouter à l'œuvre de Christ. Jean 19, 30 nous dit ceci. Jean 19, verset 30, je vais un peu vite parce que l'heure avance. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit... Tout est accompli. Tout est accompli. Je résume. La croix vide, elle nous rappelle que nous sommes pécheurs. Qu'il y a un prix au péché, c'est que nous sommes morts, séparés de Dieu. Qu'il n'y a aucun autre moyen par lequel nous puissions être sauvés que par Jésus-Christ. Et qu'il n'y a rien à rajouter. La croix vide, elle n'est pas vide d'espérance, elle est pleine d'espérance. De condamner, je passe à pardonner. De condamner, je passe à pardonner. Damien, est-ce que tu pourrais nous faire la lecture de Marc 16? Mais ça serait bon, on n'a pas trop entendu les lectures, si on peut lui passer un micro. Que quand vous n'avez pas trop le temps d'ouvrir vos bibles, voilà, s'il y avait un micro qui pouvait arriver jusqu'à Damien. Marc 16, 1 à 8. Vas-y. Ou lève-toi Damien. Voilà, on t'entend bien.
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller empaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles ouvrirent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'a fait déposer. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit, elles sortirent de tombeau et s'enfuirent, tout tremblant et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées.
Voilà. Une fois encore, nos dames sont là. Et nos dames, elles sont prévoyantes, n'est-ce pas? Elles prévoient tout, elles ont acheté les aromates, elles ont prévu tout ce qu'il faut, elles ont pensé à tout, puis là, elles s'en vont de bon matin. Le soleil se lève à peine. Elles sont en route, et d'un seul coup, elles regardent le paysage, elles voient les croix au loin qui n'ont pas été enlevées parce que c'était le sabbat, donc on n'a rien démonté encore. Et puis d'un seul coup, elles pensent, elles se disent, mais attends, on a vu où il l'a mis là. Mais il y a une grosse pierre, il y a une grosse pierre. Nous, on est des faibles femmes, comment on va faire? Et puis, deuxièmement, à qui on doit aller demander la permission de rouler la pierre? Il y a des soldats devant. C'est incroyable que des fois, on prévoit tout, n'est-ce pas? Sauf un petit détail, une pierre, 2 tonnes, 3 dames. Matthieu 28. Ce qui est intéressant, si vous voulez lire le récit de la crucifixion et de la résurrection, il faut lire tous les évangiles. Parce que Marc, là, vient nous dire qu'elle ne dira rien du tout. Qu'elles se sont enfuies, effrayées. Jean dit, elles sont allées voir Pierre et Jean. Mais on croit. Matthieu 28, verset 2. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Car l'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'asseoir de... C'est efficace dans la prière, les dames. Non? Elles sont efficaces. Mes amis, si on avait la foi de ces dames, vous vous rendez compte? Qui va nous rouler la pierre? Dieu dit, moi je fais ça. Grand tremblement de terre. La pierre, c'était pas un petit caillou, hein, c'était pas le caillou qu'on a trouvé dans chez Michel. C'était une grosse pierre. Et l'ange, descendu du ciel, va rouler la pierre. Et en plus, il s'assoit dessus. Et il les attend. Alors, la deuxième question que ces dames se posaient, c'est, mais il y a les gardiens devant. Comment on va faire pour demander l'autorisation, voir avec les gardiens, rouler la pierre? Qu'à cela ne tienne, Dieu est en contrôle. Matthieu 28, 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme, vous imaginez, ils sont là, ils se disent, ça c'est la meilleure permanence que j'ai, garder un mort devant une pierre tombale. Allez. Et d'un seul coup, la pierre bouge. Oula. Et elle bouge beaucoup pour que la porte, pour qu'il y ait un accès là. Il passe un truc là. Et là, ils sont comme morts. Deux requêtes, deux réponses. Les soldats sont inconscients. La pierre est roulée. Un ange est assis sur la pierre. Et en plus, il va s'adresser aux dames qui ont constaté de visu que Jésus était mort. Et il va commencer à dialoguer avec elles. Toutes craintives, elles baissèrent le visage. C'est Luc 24 qui le dit. Sur la terre. Mais il leur dit, parce qu'il y en a deux, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Le tombeau est vide, mes amis. Faudra vous y faire. Le tombeau est vide. La mort n'a pas eu de pouvoir de retenir Jésus. Parce qu'on n'a pas pris la vie à Jésus. Jésus a dit, je donne ma vie. Dieu a accepté l'offrande. Deuxième vérité, le tombeau vide proclame que la promesse de la résurrection est vraie. Jésus, accompagné de Marthe, vous rappelez? Son frère Lazare est mort. Et il est en train de discuter avec Marthe. Et lui dit dans Jean 11, 25, un verset magnifique, « Je suis ». la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand bien même, vivra, quand bien même il serait mort. La résurrection nous rappelle que Jésus est la résurrection. Et les femmes entendent ce message qu'on leur a déjà dit, que les hommes leur ont recommuniqué, que Jésus a montré. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec lui en sa présence. Voilà ce que le tombeau vide représente. Alors, on peut se poser la question, pourquoi la tombe est-elle vide ? Parce que Jésus est vivant. Les anges l'ont dit. La promesse du tombeau vide est que nous n'avons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant, qui nous assure la vie éternelle, la plus belle promesse. En 1887, 20 ans après la mort du président américain Abraham Lincoln, des bruits couraient en disant « mais on n'a pas jamais mis son corps dans le cercueil ». Alors on a déterré le cercueil d'Abraham Lincoln. Et là, des yeux ont vu, on a ouvert le cercueil, c'est gay, hein. On a ouvert le cercueil et là, il y avait bien le squelette Abraham Lincoln. Et on a dit, il est dedans. Et puis 20 ans après, on a recommencé parce que d'autres personnes disaient, non, non, mais ceux qui l'ont vu, ils fabulaient. Alors on a recreusé et on a ressorti le corps. Et chaque fois, on a dit, le corps, il est bien dedans. Mes amis, en ce jour de Pâques, les femmes ont constaté que le tombeau était vide, que Jésus n'était plus dedans, parce qu'il est vivant. Il est vivant et il vit maintenant en nous. Il vit maintenant en nous, car Dieu a tant aimé le monde, j'ai dit aux enfants tout à l'heure, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va ouvrir dans Luc 24. J'ai oublié de demander un lecteur, donc on va le faire ensemble. Luc 24. Ça a été lu tout à l'heure, mais on va le relire. Pour que vous restiez accrochés au message. On a vu la croix vide. On a vu le tombeau vide. Luc 24, verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, ne vit que les linges qui étaient par terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et les femmes, pour faire attention à ce que vous buvez le matin, hein. C'est ce que Pierre y dit en fait. Il dit, mais non, mesdames, ça va plus là. Et il va voir. Et il va constater quoi? Les soldats sont toujours comme morts, la pierre est toujours roulée, et le tombeau est toujours vide, et en plus là, il voit quoi? Il voit ce qu'on avait mis autour du corps de Jésus. Ce linceul, ça s'appelle un linceul, hein. Et qu'est-ce que ça nous dit? Le linceul vide est la deuxième preuve que Jésus est vivant. Et que Jésus ne va pas juste être, voilà, on l'a fait passer le bruit qu'on l'avait enlevé. Mais Jésus, en plus, il va apparaître. Il va parler avec les témoins. Il va s'asseoir avec eux. Il va marcher avec eux dans Luc 24. Il va manger avec eux, ses disciples qui ne croient pas. Jésus ne fait pas une apparition. Vous savez, quand on parle d'apparition, c'est toujours des choses impalpables. Jésus, quand il apparaît, mes amis, il donne la preuve. Hé, hey, Pierre, Thomas, regarde. Hein? Il y a un trou. Ah, c'est là qu'il y avait le clou. Ah, c'est bien toi? Ouais, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Il leur donne à manger. Il rompt le pain avec eux. le linceul vide proclame que nous pouvons avoir une relation directe avec notre Dieu. Pas un Dieu inatteignable, pas un Dieu au-dessus de tout, un Dieu qui vient dans notre vie, un Dieu qui nous parle, un Dieu qui s'assoit avec nous, un Dieu qui marche avec nous, un Dieu qui mange avec nous. Apocalypse 3:20, j'utiliserai tout à l'heure. Jésus n'est pas une force impersonnelle. Il est un Seigneur vivant qui veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Réfléchissons. La croix ne l'a pas retenu. La tombe, non plus. Le linceul n'était pas nécessaire, car il est vivant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tournez les pages avec moi. Je ralentis un tout petit peu, c'est important, tant pis, c'est midi et quart. Le rôti, à mon avis, doit être trop cuit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien est passé. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'on a un gros problème avec ce verset-là. On a quand même un gros problème avec ce verset-là. Vous savez, de temps en temps, moi j'aime les vieilles voitures. J'aime les voitures. Et de temps en temps, j'aime bien voir une Aronde, une 403, une Dauphine. Toutes rutilantes. Il y a des gens qui les gardent. Elles sont pas neuves. N'est-ce pas? Et on peut regarder des vieux trucs en se disant, oh, c'est un vieux truc. Mais à un moment, ce truc, il a été neuf. Jésus, il ne fait pas du vieux avec du neuf, et il ne fait pas du neuf avec du vieux. Quand il dit vous êtes une créature nouvelle, la chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que c'est chaque jour. Dieu nous demande d'être renouvelé. De voir les choses différemment chaque jour. Pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Mais au jour, le jour. Colossiens 3:10, il nous dit « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Renouvelé, Paul va le dire dans Romains 12, que nous ayons notre esprit renouvelé chaque jour, nourri par la parole de Dieu. La Bible, ce jour de Pâques, nous rappelle que la croix est vide. Que le tombeau est vide. Que le linceul est par terre, il est là. Parce qu'il n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'un ami de mort quand on est vivant. Et Jésus nous a donné de revêtir l'homme nouveau. Aujourd'hui, la Bible nous rappelle que Jésus est bien celui qui a été promis par les prophètes. C'est bien lui qui est venu sur terre. C'est bien lui qui a été rejeté. C'est bien lui qui a été arrêté. C'est bien lui qui a été crucifié. C'est bien lui qui est mort. On l'a constaté. Les dames l'ont vu. Les hommes l'ont vu. Les Romains l'ont vu. Les citoyens l'ont vu. Les Juifs l'ont vu. Il a été enseveli. Preuve qu'il était mort. Mais en ce jour de résurrection, il est ressuscité. La Bible nous dit aussi qu'il est monté au ciel maintenant et qu'il nous prépare une place. Et qu'il reviendra nous chercher pour être avec lui. Waouh! Les femmes, de près et de loin, ont vu la croix pleine et la croix vide. Promesse que leur péché avait été payé. Elles ont vu de leurs yeux le tombeau vide. Promesse de la vie éternelle. Elles ont vu de l'intérieur, elles, Pierre les a vues encore de plus près, que l'habit de mort était vide. Preuve qu'elles reverraient Jésus. Mais vous, et nous, est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez que le prix de votre péché, de notre péché, a été déjà payé? Est-ce que vous pouvez savoir aussi que le tombeau vide vous offre la vie éternelle. Vous savez aussi que le linceul vide nous permet non seulement de savoir que Dieu existe, mais d'avoir une relation personnelle et directe avec lui. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20 nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Dieu n'est pas un forceur de porte. Il est le plus grand serrurier. Il connaît nos cœurs, il sait de quoi notre serrure est faite. Mais il tape à la porte et il offre. Alors mes amis, est-ce que une fois encore vous allez laisser passer devant vous l'offre que Jésus fait, que Dieu vous fait? Et en ce jour de Pâques, de pouvoir dire à Christ, Seigneur, il y a tellement longtemps que tu es devant la porte, laisse-moi rentrer. Il y a un établissement aux États-Unis qui s'appelle Walmart. Et l'avantage de ces magasins, c'est que quand vous achetez quelque chose, il y a une garantie à vie. C'est-à-dire que si vous êtes content de la couleur, de la taille, vous pouvez le garder, sinon vous pouvez le ramener, on vous le change. Et un jour, un monsieur avait acheté une veste. Rapidement, il avait besoin d'une veste. Alors il a acheté une veste, et puis il est sorti, et quand il est arrivé à sa maison, sa femme lui a dit « Oh, chérie, t'as pas regardé la couleur, c'est tellement moche !» Le monsieur de dire, bah écoute, c'est moche, hein, mais tant pis, c'est un bon prix, donc je la garde. Et partout où il allait, il finissait par même se sentir à l'aise parce que tout le monde le regardait de travers en disant, mais quelle veste t'as acheté, t'es fou? Va et ramène-la, mais je peux pas. 2 ans plus tard, ses enfants disent, papa, papa, où tu jettes la veste, tu fais un truc avec, mais garde pas la veste. Garde pas la veste, elle est moche. Alors, un matin, il se décide, il dit, bon, après tout, il y a garantie à vie, hein. Alors, il arrive tout penaud à l'entrée du magasin, il va voir le monsieur, il dit, voilà, je vous ramène cette veste. Il y a 2 ans, je l'ai achetée, puis je l'ai portée. Hein. Mais alors, elle est moche. Elle ne me va pas du tout. Vraiment, ça ne me va pas du tout. Et le monsieur lui dit, mais avec plaisir, monsieur, choisissez la veste que vous voulez, pour le même prix. Jésus, c'est pas Walmart. Mais Jésus nous offre une nouveauté de vie, un homme nouveau, avec des pensées nouvelles, avec une vie nouvelle. Non plus une vie qui nous amène vers la séparation éternelle, mais vers la vie éternelle. Alors j'espère qu'en ce jour de Pâques, l'illustration avec les enfants, ce petit message, peuvent vous offrir, mes amis, à vous tous là, l'occasion de saisir la main de Dieu, et de dire, Seigneur Jésus, j'accepte. J'arrête de résister, j'ouvre la porte. Tu es là. Tu es là. On va prier quelques instants. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que toi, tu es celui qui a tout accompli. Celui pour qui la croix n'a pas pu te garder. La tombe ne t'a pas retenu, la pierre ne t'a pas retenu. Ce linceul de mort n'était pas pour toi. Et Seigneur, aujourd'hui, à chacun d'entre nous ici, les petits, les grands, les hommes, les femmes, tu lances ce même message, ce même cri. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et quelle merveille serait aujourd'hui, en ce jour de Pâques, que quelqu'un puisse trouver la vie, qu'il puisse quitter la mort dans laquelle il est enfermé, son péché enfermé, pour trouver la vie. Alors la semaine dernière, on a 2 sœurs qui ont accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été interpellé par ce message? Quelqu'un qui finalement se dit, oui, il y a longtemps que Dieu y frappe à ma porte, mais j'ai jamais ouvert la porte. et j'aimerais l'ouvrir. Vous regardez ni à droite ni à gauche, vous êtes peut-être de passage. C'est peut-être la première fois que vous mettez les pieds ici, vous dites voilà une offre. Mais cette offre, elle est vraie, c'est pas une fausse promesse. C'est la parole de Dieu qui le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que vous et vous mettez votre prénom. Ne meurs point, mais qu'il ait la vie éternelle. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait prendre cette offre et rendre de cette fête de Pâques le plus beau jour de sa vie? Là où vous êtes, vous levez la main, vous dites « Oui, pasteur, j'ai entendu. Et j'aimerais vraiment me réconcilier avec Dieu. J'aimerais vraiment rentrer dans cette vie nouvelle. Ne plus être enfermé dans ma mort, mais avoir la vie éternelle. » Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait le faire? Eh bien, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole que nous avons revisité ce matin, ce jour extraordinaire où tu nous as donné un accès direct au Père. Je te prie pour chacun, chacune, pour les hommes, les grands, les petits, les âgés, les jeunes, les enfants qui ont entendu ces messages ce matin. La Bible dit que ta parole ne revient jamais sans effet. Je prie simplement que ta parole ce matin touche des vies, change des vies, transforme des vies, et qu'ils aient accès à la vie éternelle que toi tu leur as donnée et pour laquelle tu as souffert. Au nom de Jésus. Amen.